Singing Ravel, huitième album de l'ensemble Les Métaboles, Léo Varinsky. On va commencer par une provocation. Pourquoi Singing et pas chanter Ravel, Maurice?
Parce que Singing Ravel, bon, c'est le verbe chanter en anglais. Je pense que tout le monde le connaît quasiment, ce verbe-là. Et je trouvais que ça avait un côté plus international, parce que c'est un programme aussi qu'on a pu proposer à l'étranger. Et en plus, l'anglais, je trouve, induit un peu plus de modernité, en fait, dans l'idée. Et donc, je trouvais que c'était amusant d'accoler à un des plus grands compositeurs français avec un mot anglais.
Parlons du disque, on est là pour ça. On est bien sûr là, Léo Varinsky, pour parler de ce huitième album. Comment vous le situez par rapport à ce que vous avez enregistré jusqu'ici?
Alors, c'est un album qui est peut-être un peu différent des autres, puisqu'il vient consacrer, je dirais, toute une tournée et toute une période où on a beaucoup chanté ce programme. Il a été créé, en fait, ce programme en 2021 à la Cité de la Voix de Vézelay, enfin aux Rencontres musicales de Vézelay. On avait créé ce programme pour la Basilique. Et par la suite, ce programme a tourné énormément dans plein de lieux jusqu'à être donné à la Philharmonie de Paris, où ce disque a été enregistré. Alors, ce qu'il a aussi de particulier, ce disque, c'est que c'est la première fois que les Métaboles enregistrent un disque qui soit intégralement consacré à un seul compositeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Maurice Ravel, mais avec cette particularité que Maurice Ravel n'a pas tant écrit que ça pour le chœur. Il a écrit en fait trois chansons pour chœur a cappella, qui sont les trois chansons qui sont au cœur de notre disque, Nicolette à la Després, Trois beaux oiseaux de paradis et La Ronde, mais tout le reste de sa production est plutôt orchestral ou avec des chœurs intégrés dans les opéras ou dans la musique d'orchestre ou la mélodie. Et donc du coup, l'idée c'était vraiment de voir quelles œuvres de Ravel pouvaient être chantées. Et au cœur de ce programme, c'est aussi l'idée de transcrire notamment deux œuvres qui n'ont jamais été transcrites pour le chœur avant. C'est l'œuvre qui ouvre notre disque, qui est La Pavane pour une infante défunte, qui est d'abord une œuvre d'ailleurs pour piano, qu'ensuite Ravel a transcrit à l'orchestre, et naturellement son œuvre la plus connue, Le Boléro. Ça, c'est vraiment la gageure de ce programme, et c'est peut-être le geste le plus radical, c'est de transcrire ce boléro uniquement pour les voix.
On aura évidemment l'occasion de revenir à ce boléro, très attendu pour ceux qui n'ont pas encore écouté, puisque parmi vos auditeurs, il y a évidemment les gens qui ont eu l'occasion de fréquenter les rencontres musicales du mois d'août à Vézelay, mais si on prend le disque, ben on commence par justement La Pavane pour une infante défunte.
Thank you.
Léo Varaski, pourquoi, alors que beaucoup vont en studio pour essayer de donner le meilleur du meilleur, pourquoi avoir choisi de faire un disque à partir d'un concert public?
Alors en fait, c'est la réponse est simple, c'est parce que nous travaillons sur ce disque-là avec le label B Records, qui est un label qui a pour philosophie de ne sortir des albums que à partir de captations de concerts live, pour essayer en fait de restituer au disque l'énergie, l'émotion particulière que peut avoir un live, c'est-à-dire un concert qui est fait en présence d'un public. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que, comme je l'ai dit, ce programme Singing Ravel, on a eu la chance de beaucoup le chanter. Le moment où on l'a chanté à la Philharmonie et que ce concert a été enregistré, le chœur était vraiment dans une pleine maîtrise de ce programme, une pleine connaissance de tous les détails et était mûr en fait pour pouvoir enregistrer ce concert d'une seule traite quasiment. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques petites corrections quand même, ça, puisqu'il y a toujours des petits bruits parasites, des petits accidents qui peuvent arriver, une attaque pas tout à fait ensemble, une finale pas parfaite.
Un spectateur qui a du mal à dominer sa bronchite.
Exactement, ça peut arriver. Alors en même temps, de temps en temps, on l'entend, hein, on entend dans l'enregistrement, il y a quelques petits bruits, mais qui sont aussi le témoignage d'un concert vivant qui s'est passé en présence d'un public. Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément dérangeant dans l'écoute. Et je pense qu'on sent dans ce disque une sorte de ferveur en fait des chanteurs. Et je trouve que le live contribue à apporter cette émotion particulière.
Vous dites ferveur et pourtant il ne s'agit pas de prière.
Non, c'est vrai. Et pourtant, et Ravel d'ailleurs n'a pas écrit de musique religieuse, donc on peut pas parler de ferveur religieuse. Mais il y a une ferveur que je comparais en fait à une sorte d'élan, de joie en fait, de faire cette musique. Et c'est tout ça que j'entends, par le mot ferveur.
Vous avez parlé des trois chansons tout à l'heure. Donc là, vous n'avez pas dû faire appel à tel ou tel transcripteur. Je n'ose pas dire auteur parce que, mais on y reviendra aussi, vous n'avez pas mis de parole là où il n'y en a pas.
Non, 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 exactement. Alors, on en a rajouté quand même sur la pavane pour une infante défunte. Hein. L'idée, c'était de reprendre le texte de la pavane de Toine Warbeau, qui est une pavane que beaucoup de chanteurs des chœurs doivent connaître. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, c'est quasiment un des tubes, disons, de la musique de la Renaissance. Pour le boléro, ça a été une longue question que j'ai eue avec le transcripteur Thibaut Perrine, qui est un transcripteur génial et qui s'est attelé à cette lourde tâche de transcrire le boléro pour chœur. Alors les trois chansons de Ravel, oui. Alors celles-là, elles sont très particulières, ces trois chansons, parce que Ravel en fait a écrit lui-même le texte de ces trois chansons. Il en a été l'auteur, et on relève dans ces textes-là tout ce qui compte beaucoup pour Ravel, c'est-à-dire la fantaisie, l'esprit d'enfance aussi qui l'anime, ce regard plein de tendresse et d'affection aussi pour le monde de l'enfance. On se rappelle quand même que Ravel a écrit l'opéra L'Enfant et les Sortilèges en collaboration avec Colette. Et du coup, les trois chansons, surtout les deux premiers, la première et la dernière, Nicolette et La Ronde, décrivent en fait quasiment des contes ou des légendes un peu détournées. Nicolette à la Vépré, qui est la première des trois chansons, c'est l'histoire du vilain petit chaperon rouge, puisqu'il s'agit d'une jeune petite fille qui se balade dans la forêt, qui rencontre tantôt un loup, tantôt un jeune page, et finalement tombe dans les bras d'un vieux monsieur très très riche, très laid mais très riche, et donc elle lui saute dans les bras. Voilà, donc c'est un peu une morale inversée. Donc c'est le monde de l'enfance, mais vu avec un regard un peu sarcastique aussi et fantaisiste. La ronde finale, elle, c'est plutôt la description d'une forêt peuplée de créatures très dangereuses, et donc les vieux et les vieilles déconseillent aux jeunes gens d'aller se perdre dans ces lieux de perdition que sont les bois, et en fait, à la fin, à force de les mettre en garde, et ben, les créatures s'en vont et les jeunes se retrouvent à s'ennuyer. Donc c'est une morale assez étonnante. Et la deuxième chanson, est la plus étonnante des trois, c'est la plus corrélée à l'histoire, à la grande histoire, puisque Ravel l'a écrit au moment de la Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale dans laquelle il souhaitait d'ailleurs s'engager. Il a été engagé en tant que brancardier. Et c'est une chanson qui décrit une jeune femme qui attend le retour de son bien-aimé qui est parti à la guerre. Et trois oiseaux vont venir lui donner des nouvelles de son ami. Le premier oiseau bleu lui envoie quelques pensées, le deuxième blanc lui envoie un baiser, et le troisième rouge, rouge vermeil, lui annonce que son bien-aimé est mort. Voilà, donc c'est peut-être la chanson la plus dramatique, une des plus fameuses aussi de Ravel.
si on s'autorise à oublier la musique, selon vous, qu'est-ce que le texte vous semble dire de l'état d'esprit ou de l'univers du compositeur?
Je pense que ces trois chansons, en tout cas de Ravel, ils sont quasiment une synthèse en fait de tout ce qui l'obsède, en tout cas ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, ça raconte à la fois son imagination qui est liée beaucoup aux contes, aux légendes, au thème de l'enfance, liée aussi à une préoccupation très actuelle, très historique. Hein, c'est le cas des trois beaux oiseaux du paradis. Et en même temps, cette histoire de la guerre est racontée de façon métaphorique, hein, puisque ces trois oiseaux sont les trois couleurs du drapeau français. Il y a aussi un esprit nationaliste, hein, derrière cela. C'est aussi la préoccupation de donner aussi à la musique française sa teinte si particulière et un caractère bien personnel. On est quand même dans une époque d'affrontement des nations et la musique française essaye de se distinguer notamment de la musique allemande, qui est le grand modèle. Et il y a aussi, je pense, beaucoup d'humour. Et ça, c'est très important chez Ravel. La Ronde, la dernière, est vraiment une chanson humoristique. Et l'humour traverse toute sa musique. Et en même temps, il y a dans son texte, les textes de Ravel sont même très agréables à dire d'une certaine manière et sont en même temps très virtuoses. Surtout la dernière chanson, il y a plein de créatures à dire. Et tout ça fonctionne comme une mécanique bien huilée. Et on ressent aussi dans ses textes, l'amour qu'a Ravel pour la langue française et également pour l'horlogerie, d'une certaine manière, parce que ces textes sont comme une mécanique parfaitement huilée. Et on sait que Ravel adorait l'horlogerie, adorait la mécanique. Et d'ailleurs, dans ses partitions, souvent, son écriture s'en ressent. C'est une écriture qui est ciselée, qui est d'une finesse extrême. Ravel disait souvent, mon œuvre est quasiment achevée, il ne me reste plus que quelques notes à ôter. Donc c'est vraiment retrouver aussi la substantifique moelle et trouver le geste le plus précis possible.
Léo Varesky, vous avez fait allusion à L'Enfant et les Sortilèges, donc avec Colette. Et là, vous en proposez donc vous aussi votre version.
Oui.
Alors qu'il existe des versions, y compris sur disque, avec la voix même de Colette et cet accent bourguignon si particulier.
Oui, absolument. Absolument. Là, petit clin d'œil à la région, hein, où nous avons créé ce programme, effectivement. Et Colette, voilà, avec qui Ravel a collaboré. Peut-être cette finesse du texte, ce sens de la formule, de la langue, cette description de la nature aussi tellement belle toujours chez elle, dont on sent que Ravel en est touché aussi. Et ce double regard sur l'enfance, à la fois attendri et en même temps sans aucune naïveté. Je pense qu'il y a pas mal de points communs entre les trois chansons d'ailleurs. de Ravel et ses textes de Colette de l'Enfant et les Sortilèges.
Mais alors cette fois, on trouve le texte là où habituellement on entend l'orchestre, puisque les textes sont intercalés normalement.
Oui, alors ce qui est intéressant dans les deux transcriptions de L'Enfant et les Sortilèges que nous chantons dans notre disque, il y en a deux, il y a Toi le cœur de la rose et Adieu Pastourelle, qui est le cœur des bergers et des bergères. Alors Toi le cœur de la rose, normalement c'est juste une voix seule qui chante, la voix de l'enfant posée sur des harmonies très très belles de l'orchestre, là où l'orchestre normalement ne dit rien puisque ce sont des sons uniquement. Les voix qui vont chanter ces harmonies vont reprendre le texte que chante l'enfant, c'est-à-dire toi le cœur de la rose, toi le parfum du lys blanc. C'est intéressant, du coup, c'est comme si tout à coup on rentrait dans la tête de l'enfant et comme si l'orchestre, au lieu de lui répondre juste par des sons, lui répondait par des mots, en fait. Du coup, ça élargit encore, je trouve, l'écoute de cette musique-là. Et souvent, d'ailleurs, on dit aux chanteurs d'opéra, lorsqu'ils chantent un air ou quelque chose comme cela, d'écouter l'orchestre comme si l'orchestre était son interlocuteur, en fait. Et là, du coup, ça rend encore plus présent la partie d'orchestre. Et c'est un peu la même chose sur les pastourelles et les pastoraux. C'est-à-dire que là où l'orchestre ne fait que jouer les notes et les motifs rythmiques, quand on rajoute le texte par-dessus, on entend vraiment comme si l'orchestre se mettait à parler. Et je pense que, par un phénomène intéressant de va-et-vient, si on écoute d'abord la transcription et ensuite la partie d'orchestre, je pense qu'on n'entend plus l'orchestre pareil. Finalement, Signer Ravel nous permet d'entendre Ravel différemment, même quand on revient à l'original.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on entend Ravel façon Léo Varoski? Je
Alors, je ne
provoque
sais
un
pas si
peu,
on l'entend Ravel.
pardonnez-moi.
Je n'aurais peut-être pas cette prétention, mais en tout cas, on l'entend comme si Ravel nous parlait encore plus. J'espère en tout cas qu'on découvre encore plus de Ravel, en fait. J'espère en fait, en faisant ce disque, non pas le trahir, ça serait mon rêve, si Ravel était là et qu'il pouvait nous dire, en fait, grâce à ce disque, j'ai encore découvert des choses que je ne soupçonnais pas dans ma musique.
Léo Varinsky, Singing Ravel, donc propose un certain nombre de choses avec des textes et puis des choses sans texte. Alors, vous avez fait plusieurs fois allusion au boléro qui termine l'album. On ne l'écoutera pas dans son intégralité, mais pour tout entendre, eh bien, c'est sur le disque. Ça pose tout de même la question de la transcription. Est-ce qu'un musicien peut s'emparer de tout le répertoire, même lorsque le compositeur n'a pas destiné une œuvre à son instrument?
Oui, alors c'est une bonne question. L'art de la transcription, en fait, est quasiment aussi ancien que la composition. C'est quelque chose, c'est un geste musical qui existe déjà, par exemple, à l'époque baroque. On sait que Bach, Johann Sebastian Bach, transcrivait les œuvres qu'il désirait jouer lui-même. Il a transcrit, par exemple, le concerto pour quatre violons de Vivaldi pour quatre claviers. Donc, et je ne pense pas qu'il ait demandé à Vivaldi l'autorisation. C'était une façon pour lui, en fait, je pense, de mémoriser l'œuvre et de pouvoir la jouer et d'en garder une trace. Donc, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Beethoven lui-même, de son vivant, nombre de ses œuvres ont été transcrites et pour chœur et pour orchestre, alors qu'il ne l'avait pas forcément destiné pour cet effectif-là. Donc, la transcription fait partie presque de l'environnement musical et de la vie d'une œuvre naturelle. Alors, après, il ne s'agit naturellement pas de trahir le compositeur. Donc, quand on a transcrit Ravel, j'ai demandé l'autorisation aux éditeurs, j'ai demandé aux ayants droit l'autorisation de le faire, parce qu'il ne s'agissait pas de trahir le compositeur, et j'ai eu l'autorisation. Quand le compositeur est encore vivant et que je transcris, je lui demande toujours. Et généralement, d'ailleurs, les compositeurs sont beaucoup plus enclins à dire oui. C'est plutôt les gardiens du temple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les compositeurs, les héritiers, tout ça, qui seront un peu plus frileux. Vous savez ce qu'on dit, hein, souvent... Les convertis, la foi des convertis est souvent plus forte que celle de ceux qui sont originairement à l'origine de l'œuvre. Donc voilà. Donc très souvent quand même, on obtient facilement les autorisations. Et après, bien sûr, il s'agit de transcrire sans trahir. Et ça c'est la mission. Je vais vous dire par exemple une anecdote encore de transcription. La pavane pour une infante défunte. Qui ouvre le disque, nous a posé problème, Thibaut Périne et moi, parce qu'on ne savait pas quel texte on pouvait accoler à cette transcription. J'avais eu l'idée au départ, pourquoi pas d'écrire un requiem, de dire à Thibaut Périne, eh bien, prenons les paroles d'un requiem, puisqu'il s'agit d'une pavane pour une infante défunte, une femme qui est morte. Et en fait, Thibaut Périne m'a dit non, Léo, parce que le problème, c'est que Ravel n'a jamais écrit d'œuvre religieuse. Donc, ça serait trahir l'esprit de Ravel que de mettre un texte religieux dessus. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un texte profane et que Ravel connaissait très probablement. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut transcrire en respectant le compositeur qui a écrit l'œuvre.
Et parfois, on renonce à mettre des mots.
Alors, parfois, on renonce à mettre des mots, ce qui est le cas sur le boléro, par exemple. Le boléro est né aussi à une époque où le dadaïsme était important, où la poésie sonore aussi de Tzara, par exemple, avait le vent en poupe à Paris. Et donc, toutes ces poésies sonores qui sont que écrites sur des onomatopées, des puing, jong, jong, c'est aussi une époque. Et donc, je me disais, finalement, si le boléro est écrit que avec des onomatopées, on pourrait être dans un geste que Ravel n'aurait peut-être pas désavoué, en tout cas je l'espère. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Et alors pour terminer sur l'histoire de la transcription, puisque votre question ouvre beaucoup de portes en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le disque, c'est qu'on sent à travers chacune des œuvres de Ravel la personnalité du transcripteur. Parce que dans ce CD signé Ravel, il n'y a que du Ravel, mais il y a finalement quatre transcripteurs, quatre compositeurs qui m'ont aidé à transcrire ses œuvres pour chœur. Donc il y a Thibaut Périne, il y a également un compositeur qui s'appelle Thierry Machuel, un autre compositeur, immense compositeur qui s'appelle Gérard Pesson, qui a écrit notamment des opéras, etc., qui est aussi un immense compositeur par ailleurs, et Clitus Godwald, qui est lui plutôt un chef de chœur, qui a beaucoup transcrit Ravel pour son chœur, le chœur de la SVR de Stuttgart. Et on sent, en fait, à travers chacune des transcriptions, la personnalité de leur compositeur. C'est à chaque fois Ravel slash, on dirait, Périne, Ravel slash Godwald, Ravel slash Machuel ou Ravel slash Pesson. Et ça, c'est aussi une chose qui est très forte. On sent vraiment sur chacune des œuvres que le compositeur y a mis sa propre patte.
Léo Varinsky, chef de chœur, mais je n'oublie pas aussi que vous dirigez parfois un orchestre. Est-ce que vous avez d'autres projets comme celui-là de vous aventurer à demander et à jouer et à interpréter avec votre chœur d'autres pièces de qui ne sont pas destinées à la voix?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, absolument. Alors, par exemple, on a transcrit déjà la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Alors là, ça tombe bien parce qu'il y a un texte que Saint-Saëns a déjà mis en musique sur une mélodie. Donc, on a fait ça. Et tout récemment, nous avons créé la transcription du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy pour chœur. Donc, c'est la première fois. Voilà. Et du coup, là-dessus, on a pu rajouter les mots du poème de Mallarmé qui est à l'origine de cette œuvre. Donc, l'après-midi d'un faune. Et voilà, donc nous avons créé effectivement pour la voix cette œuvre qui est au départ écrite pour orchestre.